Alors on est de retour toujours avec, avec Gaëtan, ça va ? Le donut était bon, hein, t'as fait régime, t'étais raisonnable.
Il a eu que le milieu du donut.
j'ai passé mon tour.
Donc les fameux donuts qui sont en face de la boutique Philibert. Donc si vous venez visiter notre sponsor Philibert, passez en face.
Attends, il donne rien. Hein ? Attends, tu rigoles, on va pas...
allez chez eux pour leur demander qu'ils nous donnent de l'argent pour qu'on les cite dans le podcast. Donc Gaëtan, de par ton travail dans Forge Next, tu es amené à travailler sur plein de jeux. Et dans certains, tu es aussi crédité en tant que co-auteur.
Alors certains, t'en as qu'un seul en fait.
Alors moi j'ai fait une recherche chez nos sponsors Philibert avec ton nom et j'ai vu trois jeux.
Tout à fait.
J'ai vu Guild of Cadwallon.
Guilds of
Cadwallon. Ouais, bon, mon anglais n'est pas, n'est pas terrible. Tu es co-auteur avec Charles Chevalier. Donc, c'était un Kickstarter. On en a un peu parlé dans la première partie. Comment c'est venu que tu sois co-auteur ? Est-ce que c'est Charles qui avait le jeu et
C'est un jeu de Charles à la base. En fait, avec Charles, on s'est rencontrés dans le cadre des protoludiques sur Paris. Il y a une association qui s'est montée à une époque. C'est vrai que j'ai rencontré d'ailleurs les gens qui deviendront par la suite mes associés au sein de Forge Next. C'était une association sur Paris qui faisait des protonites. C'est eux qui ont lancé les protonites parisiennes. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Charles. Et naturellement, on a commencé à travailler ensemble sur du co-développement. À l'époque, lui, il avait gagné déjà un trigo. Enfin, gagné un trigo. Il avait gagné le concours de Boulogne avec un trigo. Ils avaient été édités chez Asgard à l'époque. C'était pas Bombix. Mmh. Chez Asgard. Et depuis, après, ils sont devenus chez Comini. Et Charles m'avait proposé de travailler ensemble sur un jeu qui s'appelait à l'époque People de mémoire. Et sur lequel il y a eu énormément d'évolution. Et voilà, donc on a travaillé ensemble dans ce cadre-là, et le jeu il est arrivé assez naturellement chez David Preti, qui travaille beaucoup avec Asgard, et c'était un des tout premiers Kickstarter avant la période zombicide. Et voilà quoi. Jeu qui est resté essentiellement aux États-Unis, extrêmement difficile à trouver par ici.
Il n'a pas été redistribué au-delà du Kickstarter très peu.
Il y a le Edge qui devait bosser dessus, mais. Enfin, pas trop, quoi. Donc voilà. FFG. C'est FFG, à un moment donné, qui devait bosser dessus. Et en fait, la version qui sont sur KS, c'est quasiment la version Fantasy Flight qui aurait dû être édité. Mais voilà, donc c'était une super expérience, un super boulot avec Charles. Et c'était vraiment, vraiment cool. Travailler en plus avec Charles, c'était sympa, parce que c'est vraiment un super créateur de mécanique. Et... parce que lui, c'est vraiment l'auteur de mécanique. J'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à pondre assez régulièrement de mécanique innovante.
C'est vraiment un horloger,
ouais. Quand tu vois le boulot, la mécanique de base de Secret de Monte Cristo, c'est juste énorme, quoi. Donc, ça, c'est vraiment une des mécaniques les plus originales qui soit. Donc, après, dommage, le jeu n'a pas fait un carton, mais voilà, quoi.
Il a récupéré sa mécanique, du coup, dans...
Antarctica,
ouais.
Ah, je t'avoue, j'ai pas joué. J'ai vraiment très très peu de temps en fait pour jouer. Enfin, j'étais chez Philibert tout à l'heure, on arrivait à récupérer quelques jeux sur des jeux qui sont sortis des fois il y a un an. J'ai pas du tout. Genre, j'attends que des gens débarquent à la maison, sortent les jeux, m'expliquent les règles et go parce que.
Parce que toi, ça te rappelle trop le travail d'aller expliquer les
règles. Je t'avoue que depuis que j'ai avec Forge Next, j'ai sacrément diminué dans la complexité des jeux auxquels je joue parce que je veux du fun tout de suite. J'ai pas le temps. Là, j'ai un jeu de GMT, un jeu de course de voiture dont, honte à moi, je me souviens plus long que j'ai acheté à Essen, j'ai ouvert la boîte, je suis content. J'ai deux boîtes de Shadows of the Brimstone, une boîte qui est chez un ami belge et un autre à la maison. J'aimerais bien que les deux viennent nous expliquer, j'ai pas le temps.
C'est un métier, en fait. Faudrait inviter quelqu'un qui lit les règles pour toi et qui vient te les expliquer
avec
chez toi.
Plaisir.
Carrément,
il y a un marché là.
Il n'y a pas de souci, on a de quoi héberger du monde. Donc, tous les tâches de la maison étaient faits d'ailleurs. Dans le cas de Forge Next, on a des chambres, on a un énorme espace pour travailler. Et voilà, un super barbecue qui marche vachement bien l'été. Non, c'est vrai que jouer purement et durement, enfin,
mais justement,
c'est vraiment ce qui manque.
Est-ce que c'est pas trop chiant de, comment dire ça, de jouer à des jeux qui sont pas finis tout le temps dans le cadre pour les améliorer, plutôt que de dire voilà, on joue à un jeu qui est fini ficelé, on sait qui marche, c'est pas le même abord.
C'est un jeu de, enfin, pour moi c'est un jeu créé. Et d'ailleurs
ouais, c'est un peu comme un casse-tête, tu joues mais en réfléchissant toujours à comment
c'est une discussion que j'avais eue avec Charles à l'époque. Je me définis pas comme auteur de jeu, je me définis comme un co-auteur de jeu. Je suis incapable de développer un jeu tout seul. Tu vois, concept, c'est ce que je disais rapidement tout à l'heure, c'est en appelant Alain, vas-y, pars dessus et pars. En plus moi j'ai un problème, c'est sur la première étape, c'est-à-dire on débarque avec moi avec un proto qui est à peine ficelé, ça va. Mais alors, de l'idée au premier proto sur la table, pour moi c'est la galère, quoi.
L'angoisse de la feuille blanche.
Non, je ne supporte pas ça, j'aime pas faire ça. Donc voilà, j'attends toujours quelqu'un. Et en plus, co-développer, j'adore ça. J'adore travailler. C'est pour moi, c'est un jeu de société, le développement, quoi. Il y en a qui s'éclatent à faire ça tout seul. C'est un jeu solo, quoi. Mais mais moi non, c'est Gears of Catalon, c'était génial avec Charles. On a fait plein de versions différentes. J'ai développé concept avec Alain et l'équipe de repos, hein, parce que l'équipe de repos a quand même intervenu énormément aussi dans concept pour finaliser les choses. Hein, les fameux 80-20, ça veut dire que les 80% du développement du jeu vous prend 20% de votre temps, et les 20 derniers pourcents, 80% du temps global. Des fois, c'est même pire. Mais voilà, et puis Flick Em Up, c'est génial avec Jean-Yves, quoi. Donc, à chaque fois, j'ai mes couples d'auteurs en agence, et maintenant, j'ai mes couples d'auteurs aussi.
De co-auteurs.
Donc voilà, je continue dans la polygamie.
Multi-polygamie.
Voilà, c'est ça, mais tout seul, j'en suis incapable. J'aime pas ça. Voilà, en fait, tout simplement, c'est pas ma tasse de thé. Et donc, quand tu fais des jeux qui arrivent à la maison et qui se développent, moi, ça me pose pas de soucis.
Okay.
Au contraire.
Mais du coup, c'est
je suis
pas
là pour ça d'ailleurs.
Mais c'est pas le même plaisir du coup. C'est pas le même plaisir de jeu.
Ah non, c'est un autre jeu. C'est un type de jeu. Il y en a qui jouent au wargame, il y en a qui jouent autre chose, et moi je joue à développer. Donc voilà. Mais oui, ça me manque. Enfin, réellement, des fois, là je raconte un petit peu ma vie là-dessus, mais tu vois, on a passé le nouvel an avec des amis, avec un couple d'amis, on a fait du Pandemic Legacy de 15h jusqu'à 3h du matin. C'était juste énorme, quoi. Et je pense Pandemic Legacy est très bien. Mais
donc tu l'as fini Pandemic Legacy?
Non, on a arrêté au mois d'avril. Okay. Bon, après on a mangé, on a bien bu.
Et après c'était l'année d'après.
Fallait reprendre le train le lendemain. Mais sincèrement, je pense que c'est sur ces 3-4 dernières années, c'est évidemment une de mes meilleures expériences ludiques. Ouais. Et non pas parce que il y a le jeu, ouais, mais pas que. C'était le cadre, quoi. Le prendre du temps et passer du temps avec des amis à jouer sans se prendre la tête de savoir si le jeu va être bon. Mon verre de vin à la main et autres, c'est juste énorme, quoi. Enfin, c'est le plaisir du jeu comme beaucoup connaissent. Et voilà, ça me manque. Donc voilà.
Le week-end proxy jeu, si tu veux.
Si je pouvais. Les déplacements, ça serait cool. En fait, c'est pour ça que je dis, il faut venir à la maison, en fait. C'est-à-dire que là, les deux pieds dans les pénates et tout,
c'est plus facile.
C'est toujours plus facile.
Ok, donc on viendra chez toi.
Et Guild of Cadwallon, est-ce que c'était en lien avec le Rackham, qui avait aussi ce nom-là dans le...
Ah oui, alors c'est une licence. En fait, Cadwallon, c'est une licence. Hein. C'est une licence sur un jeu de rôle américain, de mémoire.
Okay.
Donc, Cool Mini étant américain, le KS étant orienté principalement aux États-Unis, ils ont choisi une licence nord-américaine. Donc, Cadwallon est très peu connu en France. Il y a eu Cities chez Asgard
Pupon Bits, Cities
des voleurs, là. Ouais. Et, qui est sur l'univers de Cadwallon, justement, mais peu connu par ici, mais je dis vraiment connu là-bas. Donc, en fait, le thème au début c'était Gangs of New York. Le terme du proto, on était vraiment sur un truc rien à voir, quoi. Mais en fait, ils ont thématisé, ça tournait très très bien. Donc voilà, là on est typiquement dans du Eurogame, hein, c'est-à-dire qu'on aurait pu coller, je sais pas n'importe quel thème, mais pas loin, quoi. Mais voilà, avec une bonne idée de mecha, je pense que si un jour on en pouvait la retravailler, la reprendre ailleurs, il y avait vraiment un truc super sympa, et comme avec une part de Charles, une sacrée patte de Charles, hein, parce que c'est un jeu de, comment dire, Charles, une patte de jeu d'enfoiré,
ouais.
Donc et ça quand même c'est un peu la patte de Charles Chevalier, donc Donc voilà quoi.
C'est pas dans les tuyaux de revoir un peu ça avec les...
Non, non, Charlie, en plus, il est... c'est vrai qu'il est pris par énormément de choses. On teste de temps en temps au niveau avec, avec le mini, si on peut pas récupérer les droits. Ou... Ouais, mais c'est... non, c'est vraiment pas la priorité quoi. Non, on parlera avec Charles quand on aura le temps. Le problème, c'est le temps quoi. C'est comme, tout quoi. Et c'est sûr, on revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Pour mes jeux, j'ai pas le temps. Donc, c'est un vrai souci. Et les... Quand je dis mes jeux, j'en ai quelques-uns avec d'autres auteurs. Ça traîne un peu sur certains d'ailleurs, et ça c'est de ma faute, mais priorité Forge Next.
Okay. Et alors sur Concept, si j'ai plus d'autres questions sur ce le premier
sur jeu.
Sur Concept, donc toi tu as proposé une idée, et ensuite, du coup, est-ce que c'était tout de suite, il a dit, bah tiens, tu m'as proposé l'idée, je te mets en co-auteur, ou tu lui as donné ça, et il a dit, ouais, je vais réfléchir. Et...
C'était quoi déjà l'idée de base, alors du coup.
Alors, comment je l'ai né
c'était effectivement ça, faire deviner.
Un apéro, ça commence toujours comme ça, en fait. dans VIX, les 10 ans de TT, je crois, c'est ça. On discute à un apéro avec Mathieu Despneaux et surtout Roberto Fraga. Et on parle entre autres de, du jeu qu'il avait fait chez BioViva, Cro-Magnon. Et où il y avait une tablette où en fait, il n'y avait que des mots écrits dessus. Et à un moment donné, jeu de communication. Donc, avec Mathieu Despneaux, on ne peut parler que de jeu de communication, façon de parler. Je suis un peu dans le stéréotype. C'est un peu des tasses de thé, c'est un truc. Voilà. L'apéro a dérivé là-dessus. Et de fil en aiguille, je suis dans la voiture en revenant avec ma NAM. Et la voiture, il n'y a rien de mieux pour penser des idées de mécanique de jeu. Et là, je dis, mais ce qu'il faudrait, c'est ça, faire un jeu où on
n'a pas besoin de mots.
Et là, je pensais un peu à la rencontre du troisième type, avec le son, la musique et tout. Et à un moment donné, je dis, ça c'est génial, on fait un tableau avec que des images, avec des extraterrestres qui débarquent, enfin, un truc un peu foufou. Et on appuie là-dessus, et en fait, avec des icônes, des images qui peuvent parler, quoi, et voilà. Mais très très vague, quoi. Donc j'appelle Alain Ribollet, et je dis, écoute, j'ai un concept de jeu. J'ai vraiment dit comme ça. J'ai un concept de jeu, je ne sais pas ce que ça donne, et puis je lui explique ce que je viens de vous dire. Il fait « Ok, bah je vais réfléchir à ça, on en reparle. » Ça, c'était au mois d'avril-mai. Il débarque chez moi début juillet, et il avait fait quasiment finalisé le boulot. Quoi. Là, il a débarqué avec plein de petits plateaux, avec des icônes dessus, il avait déjà des cubes. Et pour se foutre de moi, il l'avait appelé concept. C'était bien moqué de moi en disant « Et je te ramène un concept de jeu. Et voilà. Et on travaille dessus. On finalise, en tout cas, une première trame. Et là, pas de temps non plus. Et il dit, mais écoute, je travaille encore un peu jusqu'à la fin de l'année. Puis, et en fait, il emmène à Nuremberg. Donc, comme je disais, tous les jeux qui sont... Moi, c'est pas Forge qui s'en occupe hors de question. On mélange pas. Et en fait, c'est lui qui l'emmène. Et à un moment donné, il me dit, bah écoute, j'ai trouvé des auteurs, des éditeurs, il va falloir choisir. Alors je fais, oups, non mais t'es sérieux? Parce que moi le jeu je l'assumais pas du tout, je trouvais l'idée géniale, je trouvais, pas parce que c'est moi qui ai l'idée de base, mais simplement le concept, voilà, je trouvais le concept génial, mais je dis, mais les gens vont pas s'amuser avec ça, c'est pas possible, c'est pas fun, et en fait il me dit, bah écoute, on en a pas mal, et il me fait la liste, et dedans il y a un repos. Et un repos qui venait juste de faire Seven Wonders, et qui avait déjà travaillé avec U-Robot, avec Alain. Et là, j'ai dit, bah, écoute, go pour repos, tu as déjà travaillé avec eux, puis moi j'ai envie de travailler avec eux. Quoi. Enfin, il me donnait vraiment envie de bosser. Et ça, je crois que c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie dans le domaine du jeu, façon de parler, c'est que c'est le début d'une super aventure. Ils ont fait un boulot phénoménal. Cédric Comment en tête, mais pas que. Il y a eu toute l'équipe derrière, parce que c'est quand même aussi l'illustration. On a, sur la fin de projet, on a eu aussi Anne Pichot aussi, qui travaillait à l'époque pour Repos, qui a quand même pas mal aidé sur la com et sur le pousser. Et ils ont vraiment finalisé. C'était un boulot, mais dantesque. De chaque icône, travailler l'icône avec
le bon représentation. Pour trouver la bonne représentation.
Avec l'info, je prends toujours l'exemple de l'icône avec l'ourson, à un moment donné, pour présenter le jeu. Ouais. Alors, en fait, c'était vraiment très joué à une époque. On avait un ourson et un cheval à bascule. Le problème, c'est qu'on voulait représenter l'idée jeu et jouer. Donc, il a fallu acheter un dé, acheter une carte, et le dé, on l'a rajouté 3-4 mois avant. Quoi. Et en fait, c'était. Tant qu'on n'a pas les pieds dedans, on s'imagine pas. Quoi. Sur un jeu de com, le temps qu'on peut passer dessus. Cédric Comon l'a pris, mais vraiment en main. C'est devenu son bébé. Quoi. On est dans le média. on est là. Mais non, non, c'était son bébé et il a fait un Blue Jean et gravé la première présentation de concept lors d'une soirée à Smonight, mais pro à Nuremberg, où autour de la table on avait des Coréens, on avait des Allemands, on avait des Belges, des Français, des Russes, je crois. Et c'était énorme. Et là où tout le monde se moquait autour de moi en disant mais va falloir un jour que tu te présentes en salon, parce que je l'assumais toujours pas, quoi. Et là quand j'ai vu les gens qui sont éclatés quand ils sont c'est avec Cédric qu'on avait limite les larmes aux yeux, enfin, ça fait un peu pleurnicheuse comme ça, mais c'est vrai que c'était juste énorme quand on s'attendait pas à ce résultat, et je suis toujours étonné par le résultat du jeu. Parce que je trouvais très intello, en fait, sincèrement, je trouve. Enfin, c'est vrai que on avait des retours dans les tests en disant ouais, c'est un bon jeu de charade, c'est un bon jeu d'enquête, c'est un bon jeu d'énigme, voilà, ce genre de truc. Mais le fun, et c'est là, on pourra dire ce qu'on veut, mais un éditeur qui sait développer des jeux, c'est primordial dans un succès d'un jeu. Et
ils ont pas des sombreros pour rien, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais alors après, là, ça va peut-être choquer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait été capable de développer le jeu tel qu'il est actuellement. Je ne sais pas si le jeu aurait marché si ça n'était pas repos prod. J'aurais peut-être 2-3, mais réellement, enfin, j'imagine pas, en fait. Ils ont tellement investi en temps, en énergie, en tout ce que vous voulez, que d'ailleurs, c'est la marque de fabrique de repos prod. Hein, je ne connais que ou peu d'éditeurs qui développent autant, peut-être Libellude, des Français en fait, hein, Libellude, Ludonote, Space, Cowboy, c'est les premiers qui m'arrivent à l'esprit, où ils travaillent autant leur jeu, quoi. Et voilà, ils travaillent autant leur jeu, et puis il faut aimer les jeux de com, quoi.
T'es pas frustré du coup d'avoir participé plus finalement au développement?
Mais non, mais.
Tu n'en parles pas squeezé du coup?
Non, pas du tout, parce qu'on est au courant. En fait, ils avançaient énormément. Et puis, c'est fait d'une manière super intelligente. S'il y a un éditeur sur le marché qui sait gérer leurs auteurs, qui sait, les chouchouter, ses repos. Je travaille beaucoup d'éditeurs, j'adore beaucoup d'éditeurs, mais la gestion de l'auteur par repos prod, c'est un exemple. C'est un exemple parce que. Que vous ayez fait des cartons, que vous ayez pas été informé dans le développement, certes, mais même sur les salons, quoi. Ils vous chouchoutent. Je veux dire,
ils ont les masseuses.
Ils ont un mec qui masse. Ils ont un kiné qui leur file des coups de main, en plus. Non, mais c'est vrai. Mais vous avez besoin d'un pass sur un truc. Ils vont se débrouiller pour. Sur les premières années de ton jeu, ils vont t'inviter à l'hôtel pour que tu viennes. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des éditeurs chez nous, ils nous disent ouais, viens, faut qu'on prépare Eisen, faut que l'auteur vienne, tout est prévu. Je dis ouais, mais on demande juste un pass, quoi. Le reste, on gère, mais on veut le pass auteur pour pas qu'il fasse la queue. Une semaine avant, ils disent ouais, finalement, non. Et puis finalement, on le fait pas, mais par contre, vous serez là, quoi. C'est le boulot de l'État. Ah, c'est bon, stop. Et ça, c'est pas Repoprod. Repoprod, à Cannes, à Eisen, ils font un repas avec leurs auteurs, avec leur équipe. Ils ont une gestion, ils ont raison, parce que finalement, ça donne envie de travailler avec eux. Là, on a un autre jeu avec Humilasco aussi en agence. J'attends avec impatience que je sorte. Ça va prendre du temps. On n'y est pas encore. Je pense que ce sera du 2018. Et le temps que ça va se faire, j'attends que cet auteur-là aussi vive ça. Parce qu'en fait, après, ils ont des défauts. Hein. Ils ont d'autres défauts, ils ont d'autres trucs. Ils mettent des temps à développer parce qu'ils veulent un truc. Donc, des fois, c'est long. Mais voilà, en tout cas, sur la gestion de l'auteur, il y a 100 fois pire, et sur un salon, ils ont vraiment une attente du travail avec l'auteur. Ça, c'est sans commune mesure, et c'est pas les seuls, mais je sais pas jusqu'à temps qu'ils vont pouvoir faire ça, mais en tout cas, c'est vraiment du top. Quoi.
Le jeu que t'attends, c'est Amazing?
Amazing, c'est un jeu de Alain Rivoli, c'est pas moi. C'est Alain qui est passé par l'agence.
C'est un jeu à toi.
C'est un jeu de l'agence Forge Next. Ouais. C'est un jeu d'un autre auteur, pour l'instant connu pas du tout dessus, et qui n'est pas fini d'être développé, et qui sortira au nom de cet auteur-là. Mais moi, j'ai que mon boulot d'agent, j'aide au développement et avec l'auteur dessus, mais ça s'arrête à là, quoi.
Et sur Concept, vous aviez senti le truc venir, que ça soit un aussi gros carton?
Le fameux Nuremberg dont je te parle, c'était le avant Essen. Donc c'était Nuremberg 2013, si j'ai bonne mémoire. Là, à Nuremberg 2013, on se doutait que ça allait être un succès, mais pas au point où on en est actuellement, quoi. On se doutait que ça allait être un succès dans le sens où on allait, premier tirage, je crois que c'est 18 000 boîtes de mémoire, et que voilà, ça allait pas faire 5 000 et que ça allait pas être le petit jeu sur l'étagère.
On en est où là en nombre de tirages?
Je t'avoue, j'ai pas calculé, mais on est entre 400 et 500 000.
400 et 500 000,
ouais, c'est énorme. Mmh.
C'est énorme. Ouais. Là, ils font il y a rien que sur un mois, je crois que c'est au mois de novembre, je crois qu'on a dû faire 10 000 boîtes en France.
Est-ce que ce succès-là, ça, enfin, je vais dire, est-ce que ça a changé des choses? Forcément, mais est-ce que ça t'a ouvert des portes? Est-ce que ça a poussé les choses pour ForgeNext?
Personnellement, rien. Pour ForgeNext, oui. Typiquement, ForgeNext, je disais tout à l'heure sur la interview par rapport à ForgeNext, oui, puisqu'on en profite. Alors, il n'y a pas le logo ForgeNext. C'est aussi un accord. Enfin, moi, je voulais pas même après, hein, d'ailleurs. C'est une discussion qu'on a eue avec. Qu'on a eu avec Repos et on est clean là-dessus, et ça se passe très très bien. Mais par contre, voilà, je me présente en tant qu'auteur de concept et ça ouvre des portes. Ça ouvre, mais pour l'agence, quoi. Mais.
Et ça t'a offert ton temps partiel, du coup.
C'est surtout ça. Ça m'a offert mon temps partiel à ne pas me poser des questions par rapport à ça. Donc, effectivement. Et surtout, au début, une des raisons pour lesquelles j'ai mis aussi du développement, que je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que je fais beaucoup de retours, je fais beaucoup de réglages sur les jeux. Et à un moment donné, un auteur, quand tu vas lui dire, écoute, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on développe, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait qu'on travaille, c'est comme ça. Et à un moment, il va me dire, mais t'as fait quoi, mon pépère, toi? T'es bien... Tout le monde se la ramène, mais t'es qui? Et en fait, avoir un concept, avoir un flicky map, avoir un guild, ça n'a pas marché tellement en France, enfin, ça n'a pas été diffusé. Bah, c'est voilà, moi j'ai fait des jeux qui ont marché, quoi. Donc, j'ai pas non plus raison sur tout, hein. J'en fais aussi des bêtises, hein. Je suis pas sûr qu'un concept on l'aurait pris en agence pour tout te dire, justement, tu vois, tout de l'assumer, intellectuellement bien, mais on l'aurait peut-être pris pour le fun, hésiter de se faire plaisir, mais ce que si on voyait pas. Et voilà, ça me permet par contre au niveau de l'agence, au niveau du poids, au niveau des auteurs, quoi.
T'as ta carte crédibilité.
Voilà, et ça c'est important, je veux dire, enfin, c'est normal.
C'est le nom.
Voilà, c'est. Je suis pas, par rapport aux gens qu'on m'a dit, je suis pas Bruno Catala, je suis pas Bruno Fiduti, mais
tu es Gaëtan Bojano.
Voilà, un degré moindre quand même, voilà. Mais l'idée c'est qu'à un moment donné, quand je fais des retours, voilà.
On t'écoute, quoi.
Qui m'écoute et qui disent, bon, il est pas en train de me pipoter ou il se la joue, quoi. Donc, voilà. Quand je vais reprendre le mot que tu disais tout à l'heure, c'est la crédibilité. Ça m'a apporté cette crédibilité-là, et ça c'est super important. Donc, et ça, c'est primordial. Donc, c'est apporté pour ForgeNext, c'est sûr que c'est super important.
Okay. Et
oui.
Non, je vais dire la suite de concept. Est-ce
alors, on y travaille.
Concept 2.
Concept 2. Non, il n'y aura pas de concept 2. On travaille, on réfléchit à plein de choses. Déclinaison 2, déclinaison sous forme de D, on a travaillé
concept,
sur
concept legacy, tu colles des autres autocollants à la place des autres ça...
il est en train de réfléchir.
Non mais moi j'avais une question sur le principe de concept, le niveau de mettre des points, est-ce que c'est venu de qui ça, c'est parce que ça c'est
toute ta question.
Ouais,
en fait. Super sympa.
Non,
on va... Il n'y avait rien à foutre de ta
on
question.
Y reviendra.
Et là, tu.
Ah,
c'est j'ai enchaîné.
Non, ça m'arrange, moi. Hein, je vais en parler. Hein, lâcher des trucs. Mais, vas-y, ouais, donc,
tu voulais pas l'oublier.
Tu me disais, donc.
Non,
les points.
Les points, oui. De mettre des points. Est-ce que ça. Enfin, voilà, qui a apporté ça, c'est toi ou c'est Repos
parce c'est
que
nous c'est, tous.
C'est, est-ce que c'est vraiment. Ouais. Parce que moi, je ne joue pas avec les points. Quoi.
Dans la règle, c'est écrit qu'au fur et à mesure, tu ne joues plus avec les points.
Alors, en fait, simplement.
C'est, ou c'est pour toucher le grand public, pour que les gens soient rassurés qu'il y a du point. Ah, on peut faire du point, on se rassure.
Non. Bah, d'ailleurs, il y en a qui ont trouvé sur TT, même surtout sur BG, des systèmes pour faire des points qui finalement tournent plutôt pas trop mal. Ne me demande pas comment, je m'en souviens plus. Mais sur le coup, on avait trouvé ça plutôt pas mal. On avait parlé avec Thomas Provo, justement. Non, le truc, c'est que, en fait, je crois qu'on avait un truc plus ou moins foireux quand on avait présenté le jeu à Repos sur le système de points parce qu'on n'avait pas du tout travaillé là-dessus. Et en fait, je me souviens d'une séance en septembre 2012 avec Repos, justement, ou avec Thomas, on essayait justement à essayer de régler en disant mais bon il faudrait peut-être que savoir comment on gagne ce jeu hein, parce que on avait travaillé énormément sur le plateau, bon faut qu'on trouve un système de points et en fait à chaque fois qu'on commençait à trouver une idée et à la travailler et là on faisait une carte, ok alors t'as gagné machin et tout, puis ça marchait plus ou moins et puis on continuait, puis au bout d'un moment on oubliait complètement nous-mêmes le système de points et voilà, et à un moment donné il y a Thomas qui regarde, il fait on va laisser tomber hein. Ben ouais. Et en fait, à la base, c'est Thomas qui a commencé à vraiment dire, mais écoutez les gars, c'est pas dans, dans l'ADN du jeu et on va trouver un truc plus ou moins, voilà. Et puis non, mais c'est, puis c'est un bon... après c'est devenu un outil marketing, c'est sûr. Mais dans l'absolu, c'est même limite de truc de feignasse, quoi. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas, de toute façon, enfin, nous n'y arrivait pas. Mm-hmm. C'était pas dans... On est tellement dedans, on n'arrivait pas à trouver un système. Donc, on va proposer un truc, mais on va le dire que ça tombe pas, enfin, que ça tombe pas. C'est pas intéressant.
C'est pas le cœur du jeu,
c'est pas l'expérience du jeu, en fait. Mm-hmm. Et le jeu n'a pas été développé dans ce cadre-là, de toute façon. Mais c'est un jeu de com, quoi. Enfin, c'est un jeu narratif. Oui, voilà. Ou... C'est comme dit, mais on n'est pas les premiers à faire ça, en fait. Nous, on a beaucoup entendu parler parce qu'ils ont bien su faire le truc, mais qui joue avec les points avec Dixit, quoi?
Bah, moi, je joue avec les points.
Ah, Dixit.
Et le système de points marche à Dixit?
Le système de points marche très bien, mais en fait, c'est tellement narratif. Enfin, tous les jeux narratifs, quoi, au bout d'un moment, tu...
Alors, ouais, le challenge, il est pas là.
Le challenge, il est pas là, quoi. Et on n'est pas réellement. On est les premiers à avoir amplifié ce truc-là, hein, à avoir vraiment entendu parler, je pense, d'une manière aussi forte. Mais c'est pas. On n'est pas réellement les premiers à... où le jeu, où le système de points est vraiment important à la fin, quoi. Ça rentre pas dans l'expérience ludique. Okay.
Et donc la suite? Parce que...
Donc toi, tu veux la suite de concept?
Ouais, bah oui, je veux.
On a travaillé sur pas mal de choses. On a travaillé sur une version carte à un moment donné, mais qui est trop pour les aficionados de concept. C'est-à-dire que Cédric Comon, moi-même ou d'autres, ou Hervé Marley, on a fait des super soirées avec ce jeu, avec une version carte de concept. Mais. Des nuits entières, mais le problème c'est que c'est pour les puristes, quoi. C'est du concept dixième Dan, quoi.
Ouais.
Grosso modo, faut connaître les icônes de quasiment de concept par cœur.
Ouais.
Donc on a des gens comme Bernard Tavitian qui ont joué 108, 110, 108 ou 110, je sais plus.
Ouais.
Et Bernard Tavitian qui est un peu hors norme comme personnage, même connaissant pas le jeu, il arrive à l'intégrer, mais c'est pas possible. On va reprendre l'expression de Michu, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il faudrait connaître le jeu et le connaître par cœur. Donc non, cette version 4 n'a pas fonctionné. On travaille sur une version D du jeu, on travaille sur une version enfant, parce qu'on a beaucoup de demandes sur une version enfant. On a pas mal d'idées par rapport à ça. On travaille sur une version pédagogique du jeu, parce que finalement, le jeu est extrêmement utilisé par les orthophonistes dans les formations. En fait, le jeu a complètement sorti du cadre purement ludique, qui a été vraiment au-delà de ça, quoi.
C'est donc, à partir de quel âge?
Sur la boîte, sur bonne question. Alors, c'est 8 ou 10. Alors, madame dit 8 à côté, mais je ne suis pas certain. Je crois que sur la boîte, on n'avait pas mis 10. Mais voilà, il y en a qui cherchent sur Twitter, et sur Facebook, et sur Internet, et sur Google.
Et chez Philibert.
Et ça veut dire que tu n'as pas une boîte de concept à côté?
Non.
Je plaisante.
Il y a tellement de gens qui l'ont. Où est-ce que, n'importe où je vais, on peut jouer à concept.
Mais non, non, sérieusement, on a beaucoup de demandes en fait autour de la version Kids, donc c'est pas simple parce que en fait c'est pas
coordonné. Ce serait quoi? Ce serait parce que l'iconographie, est-ce que vous la gardez ou...
10. Ah, tu vois, j'avais raison.
Voilà. Ce serait quoi l'iconographie? On la garde, mais on change les thèmes des cartes ou est-ce que
on
faut quand même adapter l'iconographie?
Non, je peux pas tout dire là-dessus, parce qu'on travaille là-dessus, mais on travaille sur une arbo pour guider. En fait, faut accompagner, faut guider.
Mm-hmm.
Là, à un moment donné, les informations sont un peu déstructurées, un peu à droite et à gauche. Donc, on revient un peu à ce qu'il y avait une version, à la version originale, on avait des mini plateaux. On revient un peu là-dessus, mais encore c'est une version encore plus guidée. Donc, on a une autre idée à Cannes. Là, on a profité un petit peu pour travailler avec le reste de l'équipe. Mais ça se travaille, donc on essaye de délivrer une version kids. Je pense que ce serait la prochaine mouture. Je préfère pas parler de date dans l'immédiat, mais entre nous on en a pas assez parce que voilà, parce que ça demande des développements. Pour la fin de l'année, ce serait méga chaud parce que ça veut dire que le jeu faudrait qu'il soit fini en avril. Donc imaginez un peu, mais voilà. Donc l'idée c'est vraiment
en tout cas, c'est dans les tuyaux, ça devrait sortir.
Ouais. Nous, et là c'est pas. C'est plus les auteurs qui traînent que repos. Donc voilà, on y travaille en tout cas. Mais on nous fait bien comprendre qu'il faut d'autres versions. Donc c'est pas repos, c'est vraiment le public. C'était assez marrant d'ailleurs.
Ouais.
Donc on a rencontré du monde dans le train à Cannes. Il y a une version en France. Il faut qu'on la fasse. Donc on y travaille. Mais la version, on va décliner, c'est sûr. Enfin, quand on a. Un filler pour certains best-seller comme ça, c'est sûr.
Concept c'est Star Wars, concept Le Seigneur des Anneaux.
Malheureusement, pas des masses, des masses, des masses.
Ah, c'est dommage, il y a un paquet de licences qui sont.
qui sont
là, le jeu, malheureusement, la licence, c'est un peu foireux. Ouais, voilà.
Finalement, c'est ça le raté, quoi, le concept.
On peut pas mettre de licence dessus.
On a quand même eu une extension qui a été, enfin, une façon de parler d'extension, mais quand même le concept XL qui est sorti au mois de septembre.
Oui,
ouais, avec le tapis. Ouais.
Avec le tapis, et ça c'était plutôt pas mal, pas mal vu par pas mal de monde. Mais,
ouais, mais même en salon, quand ils le présentaient, ils avaient un grand tableau avec.
Non, mais toujours, même à Cannes,
dans les
nous on l'a, enfin. Dans la manière de fonctionner de nos amis de repos. On a une version, chaque auteur a une version, nos deux auteurs, on a une version magnétique, super sympa, tout le monde ne le ferait pas, ça coûte la peau des fesses. Mmh. Et donc voilà, et voilà, ça, c'est cette version magnétique, c'est juste génial. Moi je la passe régulièrement pour des animations, tout ce que j'espère c'est pas mes éléments, mais voilà quoi, ça se prête super bien en animation.
Ouais.
Donc ça aussi c'est une super découverte, ça, j'aurais jamais imaginé ça. Mmh. De voir Aizen et tonnes de personnes autour de la
table. Oui, c'était marrant.
Voilà.
Moi, j'étais le premier surpris. Hein. C'est juste génial pour nous. Mais voilà. Quoi.
Pas d'autres questions sur le concept ?
Non.
On passe à Fix-A-Bub. Vous en avez déjà parlé un petit peu. Donc on l'a dit, à la base c'est un jeu de Jean-Yves
Montpertuis.
Donc c'est lui qui a eu l'idée au départ.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'il a présenté alors initialement ?
Alors initialement nous on a découvert le jeu, et en fait c'est même pas moi qui ai découvert le jeu, c'est madame, à Cannes, elle rigole dans son coin, mais c'est Cannes il y a 5-6 ans avec David Bonifaci, alias Bonny. Sur une table, ils sont joués pendant 2h30-3h. C'était hyper
attends,
long.
Tu exploites ta femme pour envoyer les colis, aussi pour faire le sens mini.
Et il n'y a pas de salarié.
C'est pour ça qu'il a plusieurs, qu'il est polygame.
On va peut-être envoyer notre podcast.
Et le pire, c'est que la seule fois qu'elle a travaillé avec nous sur un salon, elle nous a placé un jeu chez un éditeur russe. Et pour l'instant, en nombre de boîtes, c'est le plus gros succès. Donc voilà,
ouais, il faut l'embaucher. Voilà, chercher un
salarié. Bon, ça va, travailler gratos, c'est plus facile pour nous. Ouais, pour l'exploiter,
ça va se payer. Ça.
Je pense. Non, mais trêve de plaisanterie. Ouais, c'est vrai que il était à Cannes, on l'avait repéré et le jeu était tout en bois. On avait cru comprendre, il y avait le gros loupé, c'est-à-dire qu'on avait cru comprendre qu'il y était dessus.
Ouais.
Donc nous on a passé, c'est dommage, genre ouais, machin du pitch, en plus on avait travaillé peu de temps avant sur Kern avec donc je faisais tellement le jeu de code barre avec BlackRock et Scorpion Masqué, et donc voilà, on passe la main dessus. Entre temps en fait, finalement BlackRock récupère le jeu, BlackRock passe à la maison au mois de septembre, ils nous disent finalement ça vous dirait pas de récupérer le jeu quoi en agence, parce que nous on n'a pas le temps et on pourra pas le développer et voilà, mais je pense que ça serait bien que vous récupérez. Bon, finalement le jeu est dispo, et un mois après Ludix, et le jeu gagne Ludix, et là on avait un partenariat avec Ludix en disant on prend le gagnant. Donc automatiquement on embarque le jeu avec nous, et moi j'avais un énorme coup de cœur quoi, donc à la fois pour le loustic qu'est Jean-Yves, parce que c'est quand même un sacré numéro. C'est un personnage en tant que tel, mon co-auteur, un mec entier, un peu comme moi, donc avec le même bon caractère, et avec un jeu complètement atypique. Quoi. On avait vraiment eu, on parlait de produit, on avait un jeu sur la table qui donnait c'était envie, quoi. Déjà, tu t'arrêtes, quoi. Enfin, ouais, c'est génial.
C'était déjà cet univers-là.
Tout à fait, l'univers western, l'univers. Et puis Jean-Yves, il est à fond dans l'histoire. Enfin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le thème. C'est quelqu'un qui lit beaucoup là-dessus. Enfin, c'est juste et tout est réfléchi, quoi. Par contre, trop lourd. Nous, on embarque le jeu et on l'emmène. Ça, c'est au mois de novembre. On l'emmène à Nuremberg fin janvier. Et on a plein de super bons retours. Mais par contre, en disant, le jeu est vraiment bon, mais un, faut laguer, et deux, trop cher à fabriquer.
Ouais.
Donc là, c'est c'est assez violent, les retours, en disant bon, c'est un bon produit, mais ça reste un produit, quoi.
En même temps, tu t'y attendais, enfin, j'imagine.
On s'y attendait, mais bon, ça, on a, c'est ce qui est toujours frustrant, et surtout de la part des auteurs, c'est d'en dire que votre jeu il est bon, mais il n'est pas éditable. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle les KS, hein, mais à l'époque, Kickstarter, c'était le tout début, quoi. On n'allait pas se lancer là-dessus. En plus, il fallait aux États-Unis pour en parler. On n'a même pas imaginé ça. Maintenant, on y réfléchirait plus. Hein. Mais
au final, le jeu il est sorti en 2015.
Le jeu est sorti en 2015, donc entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. C'est-à-dire qu'entre-temps, nous, on a énormément travaillé sur le jeu. C'est-à-dire que là, juste après Nuremberg, où moi, j'avais déjà pas mal investi sur des versions bois différentes pour multiplier les exemplaires et tout ce qui suit. On se pose deux minutes avec Jean-Yves, et avec Jean-Yves, on décide de revoir tout. Enfin, je lui dis, écoute, maintenant, on va tout élaguer. On va essayer d'avoir une règle en une page, on va faire les règles dans les scénarios, on va tout, ce qu'on voit maintenant, en fait.
Mmh. Parce qu'effectivement, en fait, on joue le premier scénario, ça donne une partie des règles, et ensuite, on joue un deuxième scénario, ça ajoute des règles, ainsi de
suite. Voilà.
On suit vraiment des scénarios.
Oui, c'est open the box. C'est vraiment l'idée, c'est que, de toute façon, c'est un jeu. Les enfants
un peu en dehors, on pourrait comparer un peu en dehors pour la partie explication des règles au fil de.
Ouais. Là, on n'a pas inventé, au chaud, hein. C'est le mode de fonctionnement des jeux vidéo, c'est le mode de tout ça, quoi. Et justement, l'idée, c'est d'accompagner plus. Et les gens, en plus, c'est des gamins qui vont jouer, enfin, plus ça. C'est les gamins vont avoir envie, ils vont poser ça, ils ont joué tout de suite, ils n'ont pas envie d'attendre qu'on leur explique, faut que tu te pousses comme ça, tout ce qu'ils ont envie, c'est poser, machin.
Et pas faire des pichenettes.
Faire des pichenettes, quoi.
S'il faut réfléchir 3 heures pour faire une pichenette. Alors, voilà. Moi, j'ai joué avec des gens qui, comme c'est un jeu d'équipe, qui
les stratégies, quoi.
Ouais, qui déblatéraient stratégie pendant une demi-heure à chaque tour.
Ben,
ça a un peu changé, mais.
ça, nous, c'est un peu notre manière de jouer aussi, hein, je t'avoue, c'est notre manière d'aborder les choses. Mais parce qu'on le joue, et puis en plus quand tu joues avec Jean-Yves qui est un dieu de la pichenette, vaut mieux réfléchir à ce que tu fais. C'est limite du billard français, tu vois, sur le placement et autres. Mais justement, l'idée c'est de raconter une histoire, et on l'a fait. Ensuite, on a eu la chance d'avoir May Boyington qui sortait d'une école et qui voulait nous filer, enfin qui voulait se faire un peu tâter dans le monde du jeu et qui vient nous voir et qui nous dit, écoute, moi j'aimerais bien travailler sur des projets. Et j'ai dit, écoute. Nous, à l'époque, on avait zéro en caisse. Je dis, je peux rien faire. Enfin, ça me dérange. Mon finance, je peux rien faire, quoi. Par contre, je peux te proposer des projets. Je te propose 2-3. Tu fais ce que tu veux sur les projets. Tu choisis le projet que tu as envie. Et on fait ce que tu veux dessus, quoi. Ça veut dire qu'on réfléchit. Et dedans, je lui parle de Flick. Et elle me dit, OK, cool. Et voyant cette possibilité, je dis, mais écoute, ce qui serait top, c'est qu'on puisse réfléchir à comment on le mette en boîte. Donc là, on a commencé à avoir une réflexion d'éditeur. On a commencé à avoir une boîte à la Carcassonne. On voulait le rentrer dans une boîte à Carcassonne. On voulait, et ça c'est important, truc, parce qu'on va parler après la boîte à la Carcassonne. on voulait un format de carton pour que ça tienne. Voilà, toutes ces réflexions-là. Et en fait, dans le design, elle nous a fait des broches très rapides qui nous a donné vraiment le visuel un peu BD, un peu, comment dire... Toons, on va dire plutôt, qu'on a à l'heure actuelle. Derrière, on a, comment il s'appelle, Bernard Cabarrou, justement, qui nous fait des nappes, des sols carrément pour jouer. D'ailleurs, c'est les premières nappes qui étaient disponibles, ce qui nous a permis de le mettre en avant aussi. Ensuite, on a commencé à travailler sur les socles. Là, on a travaillé avec Dominique Breton sur la 3D pour travailler avec... En fait, on a complètement refondu le produit. Et en fait, le produit est tel que le dernier proto qu'on leur a livré, c'est Philo qui l'a vu, vous mettez le jeu édité, c'est super proche, on va dire la même chose. Format des tokens. Enfin, ils ont repris la ligne éditoriale. En fait, ils ont repris la ligne éditoriale, d'illustration. Les socles, c'est les mêmes, un peu travaillé, arrondi, machin, voilà, des réglages de finale quoi, qui sont logiques dans l'édition, mais le truc, on l'avait quoi. Le coup de découpage de scénario, on a retravaillé bien évidemment les scénarios avec eux. On a fait une grosse refonte en fait. Et
vous l'aviez, pourquoi vous l'avez pas fait alors?
il fallait l'argent, il fallait prendre le risque. Ce qui est énorme, c'est que, attention, c'est que ce développement-là, c'est coûteux. Parce que vous voyez la boîte maintenant
de
Pretzel.
Vous avez déjà engagé beaucoup d'argent dans le développement.
Ouais, alors je rappelle, MI, elle a quand même travaillé à l'œil. Idem pour machin. Nous, on a payé la fab de ce truc, mais nous, c'est sûr, c'est notre argent de nos poches qu'on a sorti. Mais le jeu tel qu'il est, sans Mick Boynton, sans Bernard, sans Dom, on l'aurait moins bien vendu. Ça compte aussi. Dans ce format de jeu-là, pour convaincre, Voilà. Après, on a eu la chance chez Philo, c'est que Martin Bouchard, qui s'occupait de ça, il croyait plus dur comme fer. Donc, ouais. Il s'est battu aussi en interne pour que le jeu soit édité. Ils ont créé, au point de faire ça, ils ont créé une gamme.
Mm-hmm. Ils n'ont pas créé
une gamme, marque, plutôt. Ils ont créé une marque, Pretzel, que Martin porte à bout de bras. Et, et voilà.
Et même pas Pretzel, en fait. Ça, mon cœur d'Alsacien saigne à chaque fois que je lis Pretzel avec un P.
Parce que le P, c'est comme c'est... ça qu'on le dit en Amérique du Nord.
Voilà.
C'est la prononciation nord-américain. Voilà, c'est ça. Donc, non, et ça, c'est... D'ailleurs, nous, on est assez contents. On a fait une vidéo à un moment donné chez nos amis TricTrac sur la présentation de notre boulot. Et à un moment donné, on a pris les trois protos d'avancée de Flick'em Up.
L'évolution.
L'évolution. Et tu regardes le dernier proto qu'on a livré et tu regardes le jeu édité. Bien évidemment, il y a du boulot. Attention, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu de taf fait par un propre Pretzel, mais toute la ligne éditoriale était faite. Quoi. Donc voilà. Donc. On a épuré le jeu et eux ils ont trouvé le matos en bois, ils ont osé aller là-dessus et en disant on va mettre du jeu qui cause au niveau du volume, mais voilà quoi. Donc ça c'est une grosse fierté, gros boulot, c'était juste un truc de fou quoi. Enfin, et Jean-Yves qui a suivi derrière et ça c'était tip top quoi.
Et puis le bois par rapport à si on le fait en plastique, le bois déjà pour les pichenettes c'est quand même plus pratique et ça reste plus dans l'ambiance western, c'est plus le bois que le plastique quoi.
Ouais, alors c'est plutôt tu veux bien en parler quand même parce que
est-ce que une version toute en plastique fabriquée en Chine ça aurait pas été mieux?
Est-ce que ce sera pas mieux?
La question elle est bonne. Dans une boîte à Carcassonne, par exemple.
Voilà, par exemple.
Ben voilà. C'est bizarre, hein. Et ben en fait, ça va sortir en plastique, effectivement, dans une boîte à Carcassonne, comme quoi la boucle est bouclée. En fait, j'aurais tendance à dire. Et ça, par contre, pas automatiquement pour le marché européen. Donc, c'est prévu pour les marchés asiatiques.
Ils ont moins de place pour ranger les.
Ouais, et puis, on vend. Enfin, c'est assez une boîte que vous. C'est cher, mais par contre, c'est ça que la boîte de base. Ce sera pas les extensions. Ce sera pas les extensions. On va se retrouver sur une boîte à 30-35 euros. Donc, pour une boîte qu'on retrouve en France autour de 60.
Bon, moins 58 cher. 58,50
euros chez Philibert. donc voilà. Mais les extensions, par contre, qu'on travaille, c'est déjà dans la boîte de base, on avait une diligence, on avait un train, on avait des vaches, on avait des chevaux, on avait tout ça. Et donc là,
il y a des trucs qui ont été dans l'extension.
Donc là, voilà. Donc il y a la première extension qui est sortie à Essen en même temps. Parce que la boîte de base.
Quasiment en même temps.
Hein. Ouais, la boîte de base, en fait, elle est sortie à Chincon. À Essen, on a sorti la première extension. La deuxième extension va sortir à Chincon.
Ouais.
Dont on n'a pas encore parlé maintenant. Et je ne sais pas si je peux en parler. Sur le thème.
Quel dommage.
Mais ça va être sympa. Ça va être encore une nouvelle manière de pitcher qu'on sort.
On attaque un train.
C'est manière de pitcher.
Non. Non.
Les Indiens.
Pitcher avec les pieds. Attends.
Je n'ai rien dit.
Ensuite, tu avec quoi? Avec le nez? Avec le coude?
C'est une façon, à chaque fois qu'on sort une extension ou une manière de jouer, on veut une nouvelle expérience de jeu.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est super important.
Oui, c'est juste pour complexifier tout le...
c'est pas pour complexifier le tir, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment une nouvelle expérience de jeu. La manière de jouer est toujours avec un effet waouh. Mm-hmm. Donc il faut sortir dans l'univers western.
Mm-hmm.
Donc, bien évidemment, le train, il est hors de question à cause de Colt. Il faut être logique. Hein.
La DeLorean aussi.
La DeLorean aussi, c'est vrai. Ouais, je suis là-dessus. Mais voilà, après, de toute manière, il y aura, je pense, une grosse surprise. Enfin, je ne sais pas, à Gen Con, non.
Les extraterrestres, cowboys et extraterrestres.
On y aurait pensé à ça. Tout ça. Le pire, c'est que c'est vrai. Non, il y aura normalement une surprise. J'espère qu'ils le feront. Donc, ça, je pense créer de l'attente. ensuite, il y aura donc cette fameuse deuxième extension. Et puis, la version plastique. Donc, il y a quelques photos qui traînent sur Facebook. Par contre, moi, assez content d'avoir bien eu raison sur la boîte Carcassonne, toujours l'ego qui parle, mais par contre, super agréablement surpris parce que même je suis d'accord avec toi sur la partie bois, sur le truc, mais la version plastique, moi j'étais agréablement surpris par le côté bon, c'est vraiment brillant et haute, mais c'est super sympa quoi. Enfin, réellement, j'étais assez dubitatif, mais ça rend quoi.
Et du coup, si ça rentre dans une boîte Carcassonne, c'est plus petit. Enfin, il y a des éléments plus petits.
C'est exactement la même chose. C'est mieux en... enfin, le rangement est optimisé.
D'accord.
Et c'est du bon thermoformage et tout. Donc
t'as, non, t'as un deuxième jeu, tu joues à Tetris pour ranger un peu.
Bah, par contre, t'auras pas l'extension. La version, la... Alors, après, ça peut changer, mais en tout cas, le discours qu'on a de la part de l'éditeur dans l'immédiat, c'est qu'on n'aura pas les extensions de Flick 'Em Up dans la version plastique.
D'accord.
Alors, combien de temps ce discours-là va tenir, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, on a deux extensions, on nous a pas demandé, de faire. Enfin, nous, on a plein d'autres idées, hein, donc. Donc si à un moment donné l'éditeur décide de stopper les extensions et d'arrêter sur la partie, cette partie-là, bah, nous, on ne s'interdit pas, nous, dans ce cas-là, de partager nos idées en ligne, parce que nous, on a plein d'idées sur les extensions. Mmh. Donc, que ce soit 30,
sous forme justement. De scénario ou des choses comme ça, du coup,
alors, ouais, ouais, il y a...
Parce qu'après,
Jean-Yves a plein d'idées sur les trucs, sur le fait de travailler. Mmh. Il faut, soit l'éditeur, soit nous, on en discute avec eux sur la partie, par exemple, une aide à la création de scénario. Mmh. On a des idées de campagne. Mmh.
Flick 'Em Up Legacy.
Pas trop, moi non plus.
J'arriverai à le placer.
Non, mais une vraie campagne là-dessus, un truc sympa. On avait travaillé à une époque sur un fort, et qui tombe vraiment bien. Et vous allez voir dans la deuxième extension, il y a un truc qui reprend le même mécanisme. Et voilà. Donc, voilà, les idées ne manquent pas. Après, on verra comment on va travailler avec l'éditeur. Et s'il arrête de bosser dessus, si ça marche pas ou quoi, ok. De toute façon, je pense qu'on partagera d'une manière ou d'une autre sur cette manière de faire, quoi. Mais, et puis, on pense même à un spin-off, pour tout vous dire. C'est-à-dire que refaire Flick 'Em Up, mais dans un autre univers.
D'accord.
Donc,
On reprend les aliens, et qu'est-ce que t'avais pensé?
tout est possible.
Ouais. Mais vous avez une idée précise d'univers ou... C'est encore
alors, plein de réfléchir, à un moment donné, on réfléchit à des trucs classiques. Bah, le western, le gros avantage de la version western, c'est que
ça parle à
tout le monde. Quoi. Donc, à un moment donné, on commence à penser à des trucs supra classiques comme les pirates. Mais le problème, c'est que les pirates, il faut jouer avec des bateaux. Pitcher les bateaux, c'est un peu plus dur. Donc, on s'est dit.
Au milieu d'un duel, on peut pas dire ça.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Voilà, je l'avais préparé.
Ça se m'appelle.
Je me demandais quand il pourra le placer.
Tu sais qu'à une époque, on avait tout un univers et on voulait faire chaque scénario sous des déclinaisons de films connus, en fait, de films western. Ouais. Quoi. Bon, ça n'a pas été retenu. mais on ne s'interdit pas.
Ouais, du coup, autre univers alors, non?
Ouais, on travaille sur plein de... On réfléchit. C'est-à-dire que.
C'est pas arrêté.
Bah, zombies et tout. Enfin, on a une bonne idée. Avec
piquer pas les zombies.
Non. Ouais, on me l'a demandé. Hein.
C'est là où on peut remettre les licences. Licence Star Wars.
Là, tu peux mettre de la licence, là.
La licence Dead of Winter. Pour rester chez
même
éditeur. Le
problème, c'est
que
du coup, Philo, ils ont pas Star Wars.
Non, mais je dis Dead of Winter.
Dead of
Winter. Mais non. On y réfléchit et puis je pense que là on a une idée. On a une idée qui travaille depuis une semaine et donc c'est tout frais et même l'éditeur n'est pas au courant. Donc voilà, bon, depuis qu'on s'est diffusé,
il va diffuser
le machin, mais je pense qu'on va partir là-dessus. Ça nous botte bien et puis voilà, et on va le développer et on verra si ça tourne parce que le problème c'est bien d'avoir des idées, mais à mon avis il faut que ça tourne aussi. Hein. Donc voilà, on lui dit c'est quand même de faire un spin-off, mais faire un spin-off qui soit intéressant. Donc voilà. Mais puis voilà, le jeu marche bien pour le moment. Donc...
Ça fait quoi comme vente pour le moment, Flick 'Em Up?
Vente mondiale, j'ai plutôt des tirages. On est. Je sais même pas si. Non, Philo, il parle pas de ça. C'est pas leur truc.
Ils payent pas non plus.
C'est pas leur truc. Ils payent en temps et en heure. Donc il y a aucun souci là-dessus, c'est très clair. Non, ça, c'est pas. On n'a jamais eu de problème de paiement avec Philo. Ils sont vraiment carrés. Quoi. C'est une paye par trimestre d'ailleurs, donc c'est ce qui est rare, donc ça c'est cool. On n'a aucun souci sur cette partie-là.
Ça réduira pas ton temps partiel.
Je rappelle que c'est Fortnite qui touche les droits sur.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est pas moi. Et voilà, c'est normal, c'était développé dans le cadre de Fortnite. En tirage, on va dire, on est à plus de 15 000.
Plus de 15 000.
Donc plus de 15 000.
Donc, ouais, pour un jeu de Scalib, c'est quand même.
C'était pas mal.
Ah ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Sur ce format-là, ouais.
Après, c'est toujours. Après,
je pense que c'est que le début. Enfin, réellement, ce début-là, on va avoir dans un jeu, l'important, c'est deuxième et troisième année. Ouais. Deuxième année, c'est on va voir s'il peut vraiment continuer. Troisième année, s'il continue, les ventes augmentent dans la troisième. En général, on dit que c'est bon, ça va devenir un filler et go quoi.
Bah là, ce qui va être important surtout, c'est la version plastique à venir.
Je t'avoue, j'en sais rien. On va voir un peu comment.
Là, on va diviser le prix par deux, non à peu près.
Oui, mais c'est pas sur le même marché. Normalement, il est pas prévu sur le même marché.
Là, il est pas distribué aux États-Unis, en Asie, non ?
Il est distribué en Asie, ouais, pour l'instant.
Ouais.
Donc après on va voir. Après t'auras pas les extensions. C'est si tu veux, c'est mieux. Si tu veux une version bois qui est sympa avec les extensions et tout, tu vas aller. Tu vas. C'est comme si t'avais une version. Tu vas avoir la version bas de gamme entre guillemets, grande surface et tout, parce qu'on pourrait attaquer. On pourrait attaquer grande surface avec ça. Hein, avec la version plastique, t'as une version bois qui fait plus pour les gamers qui ont pas le même budget. Et avec les extensions, go. Et puis derrière, parce que l'objectif, hein, c'est que toutes les extensions tiennent dans la boîte de base. Et derrière la version plastique pour un autre marché quoi, peut-être plus mass market justement. Donc c'est pas con, au contraire, enfin, la réflexion de Philo autour de ça elle est logique, tant mieux d'ailleurs, mais non, je pense que de toute façon la version bois on va pas en vendre des caisses et des caisses et des caisses, on va pas faire 500 000 boîtes au bout de 3 ans comme concept avec une boîte pour une boîte à 60 euros quoi.
Et l'idée de la boîte totalement en bois
C'est Martin Bouchard, c'est chez Fio. Nous, on n'était pas du tout là-dessus. Je t'avoue que moi, ça m'a fait peur. Hein.
Ouais, parce que du coup, ça doit quand même lever encore.
Ça fait augmenter le prix encore.
5 euros, quoi.
Ah, c'est aussi ça qui fait qu'on a mis moins de trucs dans la boîte de base. Mais au final, et puis attendez, il y a la boîte bois, il y a tout ce qui entoure la boîte bois. C'est-à-dire qu'il y a le carton.
Oui, il y a un carton pour protéger
le sur-emballage qui tue les ours blancs.
Non, pas
pour mettre quelque chose derrière.
Non, c'est pour
écrire les noms.
Bien sûr. Non, pour la boutique. Parce que justement, le dos de Flick Em Up, tu regardes, tu expliques tout le jeu avec. Hein.
Ouais.
Donc, c'est vraiment le dos, en plus, le carton, il est vraiment bien fait. Quoi. Donc,
C'est pas juste pour protéger la boîte.
Non, c'était vraiment. Non, il y a une vraie raison, ils ont vraiment du bon boulot là-dessus. Hein. Donc, non, c'est important. Sur cette partie, sur la partie Flick Em Up, sur la version bois, le bois en lui-même, c'est vraiment. Ils ont voulu vraiment faire une. Comment dire. Une version. De luxe, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et c'est, de toute façon, c'est la marque, c'est la patte de fabrique de Pretzel au final. Parce que là, ils vont sortir un autre jeu qui s'appelle Junkyard. Et l'objectif, c'est ça. Hein, c'est vraiment d'avoir une gamme bois tip-top, quoi.
Non, mais justement, je reprenais la boîte. C'est vrai qu'il y a tout.
Il y a que trois langues. Hein. T'as anglais, français, allemand.
Ouais, mais le plus souvent, il y a que l'anglais, ça suffit. Et il n'y a pas le petit logo Forge Next, du coup? Ah, il est là.
Il était petit.
Il est trop petit.
Ah non, il est pas petit.
T'as juste une mauvaise vue, quoi.
Non, il se voit bien. Non, sérieusement, il est assez gros et tout le monde. Enfin, certains essaient de pas jouer le jeu, mais on n'a pas de problème avec eux. D'ailleurs, tu regardes, il est aussi gros que celui de
Pretzel. Hein. Ouais.
Donc, non, il n'y a pas de. Cette partie-là, il n'y a aucun souci.
Ouais, donc du coup, ils ont été obligés de découper finalement le jeu pour mettre des extensions à part. Hein.
Le meilleur exemple, c'est Catan. Hein. Ça se comprend aussi, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu mets les beaux. Enfin,
à Catan, je sais pas s'il avait été conçu comme ça au départ.
Quoi. Non, Catan, il a été découpé en morceaux. Ouais. La boîte de base de Catan, tu avais 3-4 premières extensions qui est eu après, c'était dans la boîte de base. Hein.
Mm-hmm.
Mais non, la logique, enfin, nous, ça nous a fait un peu mal sur les chevaux parce que jouer des cowboys sans chevaux, ça nous est un peu bizarre. Après, financièrement, ça se comprend. Enfin, déjà 60 euros la boîte, c'est chaud. Il a fallu retravailler tout le. Plus le poids, plus tout ça. Quoi. Donc, nous, il a quand même fallu qu'on retravaille tout les scénarios, hein, en conséquence.
Donc, mais est-ce qu'on peut rejouer avec les chevaux dans les premiers scénarios aussi?
Ouais, tu réadaptes.
Je peux tester encore les chevaux. Hein.
C'est ça change. Enfin, faut dire que nous, on est dans la boîte de base, donc c'est vrai qu'on a du mal, mais ça change beaucoup de choses. En plus, sincèrement, je pense qu'on a fait un super boulot. Le 11, ça inclut l'éditeur hein, sur les scénarios de l'extension. Et l'extension chevaux, il y a des scénarios. Enfin, moi, je m'éclate. Hein, comme vraiment comme un malade, alors que ça fait pas mal d'années qu'on est dessus. Et on s'est pas mal déchiré là-dessus. Quoi, donc voilà. Donc, l'extension chevaux, je trouve. Se justifie par plein de choses, par le thème, par l'expérience de jeu, et je pense que la deuxième extension,
Qui se nomme
J'en sais rien du tout.
J'attendais un scoop là.
Non mais le pire c'est je crois qu'ils ont trouvé mais je me souviens même pas et il doit avoir Red dedans. C'est pas Red Canyon, il doit avoir Red quelque chose.
Ah, c'est Stallion Canyon, c'est la première ça.
Ouais. Et c'était sur BGG, je sais pas s'ils en parlent.
Red Cowboy Indien. J'aurais sur les Indiens.
Ouais non. Il y a Red Watopi dans une des villes. Ah non ça c'était dans le truc. Tu vois en plus on a des noms de villes en plus. Qui sont en plus, tu vois, raids peau rouge et tout, tu vois, c'est pas très c'est pas très politiquement correct, on va dire comme ça, tu vois. Donc, faut quand même qu'on fasse un peu attention quand même.
Si on veut le vendre aux États-Unis, c'est ça.
Bah, c'est le cœur du marché,
c'est ça. Donc, c'est plus les États-Unis que l'Europe, de fait de philo ou. De fait des, non,
ça parle,
des
ventes. Je pense que ça parle plus que le marché se développe aussi énormément aux États-Unis à l'heure actuelle quel éditeur pour qui le marché américain n'est pas plus important, à la limite le marché allemand tu peux l'oublier quoi. Enfin, je suis un peu extrême dans mes propos mais si à l'heure actuelle entre l'Allemagne et les États-Unis il y a un marché que tu veux oublier, c'est l'Allemagne hein. C'est pas là que tu vas te faire une c'est bien pour la com, c'est bien pour le spin. Mais vu le prix des jeux et vu le marché qui est complètement archi saturé, les États-Unis, c'est là que tout le monde va. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien qu'Asmodée.
C'est le nouveau monde, quoi.
Oui, c'est ça, mais depuis 3-4 ans, quoi. Donc, où ça explose beaucoup, c'est le marché américain qui est la cible. C'est super important pour tout le monde.
Question de nombre de personnes, et puis de. Je pense qu'ils ont connu le même développement qu'on peut voir en France.
Ouais, vite, mais beaucoup plus vite. Et puis moi, je me souviens de des gens de Cool Mini, face à une personne comique, ils disent oh, attendez, vous voulez faire un jeu de pitch. Vous avez les Américains avec leurs gros dents, ils vont jamais y arriver. Faux, quoi. C'est-à-dire que le marché américain, même les Américains même, ils sont eux-mêmes surpris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images ou quoi que ce soit dans la manière d'analyser les trucs qu'on a fait tomber, le monde du jeu a fait tomber, où voilà, on a été au-delà de ça, quoi. Et le marché américain est littéralement en explosion, quoi. Et c'est super important, quoi. Donc, dans le volume, dans ce qu'ils sont prêts à acheter, quoi. Un joueur américain qui va de mettre beaucoup plus d'argent sur un jeu qu'un joueur en Europe, quoi. On n'a pas du tout la même manière de fonctionner. On va comparer Gen Con et Essen, quoi. Justement. Mm-hmm. Les goodies aux États-Unis, ils les payent, hein. Pas en France. Pas Essen. Tu aurais des prix d'entrée de Gen Con et des prix d'entrée de Essen, c'est pas la même chose.
Mm-hmm. Non, mais aux États-Unis, tu payes tout. Hein. Même les dédicaces, enfin.
Oui, les dédicaces, photos, tu payes tout.
Tu payes.
Enfin, pas dans le monde du jeu.
Dans le monde de la BD, tu, entre autres, tu les dédicaces, les photos, ouais. Tu payes.
Bah oui, mais c'est même si je pense que ça va changer, tu vois. Will Wheaton, je pense pas que de qui est donc un ancien acteur de Star Trek et qui a une émission importante dans le domaine du jeu aux États-Unis. Des séances photos, je pense pas qu'elles soient gratos. Quoi. Donc, non, c'est un autre marché, c'est une autre manière de faire. C'est bien, ça nous fait évoluer, quoi. Donc, c'est pas pour rien qu'on a des jeux qui sont lancés prioritairement aux États-Unis. Enfin, Pretzel, on a des lancés prioritairement, c'est des éditeurs américains, mais pas que. Faut regarder Season chez Libellud, il est sorti aux États-Unis. Colt Express, de mémoire, je suis pas sûr de moi, mais je pense que Colt Express est sorti d'abord à Gen Con.
Ouais.
Abby est sorti à Gen Con. Enfin, c'est devenu super important.
C'est devenu un gros rendez-vous de l'année.
Donc, aussi important si ce n'est plus que ça. Quoi. Donc.
Ouais, et puis ça permet d'étaler aussi. Enfin, je sais qu'il y a pas mal d'éditeurs qui ont des problèmes de prod à force de tout mettre sur Essen. Ça complexifie aussi les choses. Quoi.
De toute façon, avoir des problèmes de prod sur la fab. De toute façon, globalement, ça commence à être un souci global. Il y a un article il n'y a pas longtemps sur Defal, sur TrickTrack, sur la partie problème de plastique par rapport au Kickstarter. Mais
il n'y a plus de plastique.
Grosso modo, ça vient pas à ça, mais pas loin. Mais on a un souci, de toute manière, il y a une telle production, un tel volume, ça devient de la folie pure, quoi. Ça devient de la folie pure. Donc, et d'un côté, c'est pour le bien. C'est plus le bien du joueur que l'inverse. Hein. Parce qu'on arrive on fonce droit sur le modèle BD. Quoi. Donc, à un moment donné, la casse, c'est sûr et certain.
Moi, je sais pas, ça fait beaucoup d'années qu'on en parle et au final, on voit quand même pas. On est quand même pas encore dedans. Donc,
on n'est pas encore dedans, mais on y fonce. Enfin, tu vois, la surproduction du nombre d'éditeurs, le nombre de tirages, ouais, le nombre de... Donc, à un moment donné, enfin, je veux dire, il faut que l'accroissement soit égal entre les deux. Après, je pense que tout le monde y pense. Je pense que c'est pas... C'est
bon,
pas
en ce moment, je pense, comme le marché du jeu, comme il y a plus, le nombre de joueurs augmente, on s'en rend peut-être moins compte, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent, donc...
Au final, c'est juste qu'on arrive.
Voilà, le marché américain a explosé entre temps.
Et voilà, fou, mais au bout d'un moment, quand le marché il va arriver à saturation, le nombre de jeux il peut pas augmenter après.
C'est ça, il y aura plus de.
Ouais. Ça pleure parce que
plus de casse.
Ça pleure parce que tu ne diffuses plus en direct.
Du coup, ça nous a fait une petite coupure.
T'avais prévu quoi ?
Non, parce que je pense qu'on a fait le tour.
Pourquoi une extension aussi rapidement ?
Bah du coup, on le sait, c'est juste que le jeu a été découpé. Non, moi j'avais été étonné à moi la sortie en fait. Je fais des, j'entends parler d'une extension, mais le jeu est sorti il y a un mois. J'avais pas compris quoi, vraiment. Mais
les FFG font comment ? Star Wars, mais t'avais déjà des extensions.
Ouais, bien sûr.
Bon, le jeu s'y prête à mort. Enfin, depuis le début, j'en parle. Ce jeu, j'en parle souvent comme un produit. Ok, c'est une expérience ludique. Ok. T'as tout ça, mais c'est aussi avant tout un produit, quoi. Enfin, tout jeu est un produit, donc.
Oui.
Donc voilà, et donc là, le jeu s'y prête super. Enfin, toutes les idées qu'on a, à un moment donné, le jeu, il vaudrait 300-400 euros. Hein. Tu mets des forts, tu mets des indiens, tu mets des, des chevaux, tu mets des vaches, tu mets des trains, tu mets des diligences. Tu mets, des idées. Tu mets des Mexicains, tu mets.
Ah, c'est exactement le
des
même.
Non.
Sur l'impôt, on met des factures.
Ah, bah attends, on est de côté, on est politiquement correct, mais il y a un truc, moi, ce qui me fait sourire, c'est que pour l'instant, c'est vrai, c'est moi qui en parle en général, d'ailleurs, parce que personne ne m'en parle, mais les gentils sont en couleur claire dans le jeu, et les méchants sont en couleur sombre.
Et si c'est les méchants, il y a des joueurs qui les jouent aussi.
Non, mais est-ce que. Voilà,
c'est ça, on dirait. Des gentils, on va dire.
C'est pas du race, c'est ça.
Voilà, c'est à un moment donné, je me dis, mais à un moment donné, on va avoir cette réflexion-là. On ne l'a jamais eu. Tant mieux, parce que c'était pas du tout l'idée de base. Parce que de toute façon, il fallait bien des couleurs qui se, comment dire, qui se partagent, qui se confrontent. Donc voilà, donc tant mieux. Mais,
est-ce qu'aux échecs, les blancs sont les gentils et les noirs les méchants ?
Non, mais là, t'as vraiment une autre position. Dans le flic et meuble, t'as vraiment les bons et les gentils.
T'as le shérif et le méchant.
En fait, on l'a pas présenté comme ça quand j'ai joué. Donc,
Bah, il y en a un qui est, il y a le shérif.
Il y a comme le shérif, donc l'opposé,
c'est
quoi ?
Attends, le shérif, c'est le loi, mais est-ce que c'est vraiment le bien ? On n'est pas, c'est pas dit, c'est tout. Il est plus corrompu que les autres.
Ça dépend dans quel western.
Ça dépend du western. Donc bon.
Non.
Il y a des bandits gentils, hein. Merde, Robin des Bois. C'est vite gentil. Le shérif, c'est le méchant. Ah, voilà.
Ça dépend du point de vue, c'est tout.
Tout à fait.
Bon, bah voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Gaëtan, est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Non, du tout.
Merci
de nous avoir invités.
T'en as plein, mais.
Moi, sans qu'on me pose des questions, c'est pas de soucis, je peux répondre.
Hein. Bah, t'as des jeux encore dans les cartons, quoi.
En cours de développement, ouais. J'en ai un avec François Rouzé, j'en ai un avec pas mal de monde.
Est-ce que c'est plus facile, du coup, en tant que co-auteur ? Via ForgeNext, tu les rencontres comme ça et ils te disent ah tiens, c'est pas forcément.
Bonne question.
On demandera aux autres à tes co-auteurs.
Mais en fait, non, parce que au contraire, j'aurais tendance à te dire on a un très bon contre-exemple, c'est que je dis souvent d'un certain côté, c'est Bruno Catala. C'est-à-dire que je pense que quand quelqu'un va voir Bruno, et on a eu beaucoup d'auteurs qui nous ont dit nous on a demandé à Bruno Catala. Et naturellement, quand tu vas voir Bruno Catala, tu proposes naturellement, on dit, si Bruno rebondit sur le jeu, il aime de leur proposer en disant écoute, on n'a qu'à le développer ensemble. Autant nous, quand on nous démarche, on nous propose cet engagement, même si c'est un début d'idée, tu vois. Donc à un moment donné, tu leur dis, mais attendez, boulot qu'il y a derrière. Mais non, vous êtes agents, les gars. Donc tu vois, on n'a pas du tout.
C'est ton étiquette au départ.
Bah voilà, donc c'est pas naturel pour les gens de. Alors certains, oui, mais pas tout le monde. Et voilà, donc non. Le co-développement François, c'était plus par rapport à l'occasion, et François Rouzé, parce qu'on connaissait, donc c'est l'auteur de Room 25, qu'on connaissait depuis pas mal de temps, mais c'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel. On nous demande de finir leur jeu carrément, hein, des trucs. J'ai une idée, vous pouvez le finir, et c'est moi l'auteur. Bah, on nous demande, vous êtes gentil, mais non. Mais voilà. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est l'image qu'on a.
Ouais.
Et, c'est, des fois, c'est chiant, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Des fois, tu as envie de leur dire, faut pas abuser non plus. Quoi. Et quand on co-développe, de toute manière, c'est ce qu'on leur dit, toute l'activité d'agent, on ne va pas prendre un taux de co-auteur plus un taux d'agent. C'est que c'est compris dedans. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais du co-développement avec Jean-Yves, par exemple, ça intègre en même temps l'activité d'agent, il ne faut pas abuser. Quoi.
Ouais. C'est-à-dire que tu t'occupes de toute la partie agent.
Bah oui, c'est compris dedans. On est là, enfin, c'est pas dans le monde du jeu que tu vas faire des gros cartons financiers. Il faut toujours prévoir les coûts avec un contrat. Un contrat, c'est important. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu prévois le cas où ça va pas. C'est comme tout. Hein. C'est un contrat dans quel que soit le domaine. Et voilà, après, nous, on n'est pas là non plus pour rincer les auteurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas notre manière de faire et toujours penser au coup suivant. C'est-à-dire que les gens, tu peux, la fameuse expression des nuls, tu peux tromper mille fois une personne. Non, tu peux tromper mille personnes une fois, mais pas une fois une personne mille fois.
C'est ouais, dur c'est en fait.
C'est ça, ouais. C'est toujours la même histoire. C'est pas si simple. Mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est créer de la relation sur du long terme.
Contact, quoi.
Non, mais
sur du long terme, ouais. c'est pas juste un coup, quoi.
c'est exactement ça, quoi. Donc, et c'est le meilleur moyen pour travailler avec les gens, les aider. Et
qu'ils reviennent vers vous pour
le prochain. Quoi, pour la suite, et c'est pas simple. C'est pas simple parce que les auteurs, certains auteurs, ils ont pris deux ou trois jeux, on les embarque et ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Oui, c'est pas toujours simple à vivre. Hein. Donc,
la rupture.
Ben, nous, ça va. Ben là, mais voilà, là, j'ai vu un auteur avec qui on a arrêté de travailler à un moment donné pour ça. Et c'est pas si simple, il retourne sur le marché et il galère un peu, mais. Un jeu, tu le sors avec des tripes. Enfin, à un moment donné, il faut penser à ça aussi. Hein. C'est un jeu, tu le fais pas. Tu mets de toi dedans. Et te faire rejeter par un éditeur, et souvent, c'est pas super bien vécu bon par tout le monde.
C'est pour ça qu'un agent qui fait l'intermédiaire, c'est peut-être un peu mieux pour. Tu te prends moins de retours.
Ouais, mais comme il y met ses tripes aussi.
Ouais, mais nous. Mais,
non, mais en tant qu'auteur.
Non, mais on met une tripe dedans dans le développement, mais. Mais oui, enfin, nous, on est là aussi pour à un moment donné.
On veut dire, c'est pas grave si lui il l'a pas pris et un autre.
Voilà, et puis, c'est mieux qu'on va présenter un jeu à un éditeur. À un moment donné, l'éditeur il va dire non, mais c'est bon, c'est pas pour nous ça. Bah, ok, go, next.
Oui, t'as plus de recul.
Et, non, mais on va pas insister. Tandis que l'auteur qui débarque avec deux jeux, il tire sa vie quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai vu à Cannes hein, qui se tombent avec une seule boîte de leur jeu. Et il démarchait tout le monde, et à un moment donné, il disait bah, ok, tu m'en laisses une. Bah ouais, je vais la dessiner bien, parce que j'ai rendez-vous après. Donc il revient, il vient l'arracher, tu vois, et ils vont sa vie sur ce truc-là. Quoi. À un moment donné, t'as beaucoup d'ego, quoi. C'est normal, je veux dire, c'est pas une critique de la personne en tant que telle. Et, tandis que nous, c'est pas qu'on vend des boîtes pour vendre des boîtes, c'est qu'il y a quand même un détachement qui est nécessaire par rapport à ça. Donc on va pas aller insister auprès de l'éditeur pour dire mais si, regarde. On va pas aller voir Cocktail Games et lui dire écoute.
J'ai un jeu de cube en bois là.
C'est ça, super. C'est exactement ça. Et si, il est bon jeu. Maintenant, c'est pas pour moi, t'es gentil, mais si, mais bon, je me suis fait jeter par tout le monde, mais tu peux comprendre que. Et voilà, et nous, c'est pas ça, quoi. Donc, et c'est pour ça que ça marche aussi. C'est-à-dire que. D'ailleurs, par contre, c'est violent. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs. Qui pourrait très mal le vivre. Moi, je me souviens d'un auteur qu'on avait emmené exceptionnellement à Cannes.
Tu vois d'éditeur.
Un auteur qu'on est juste de prendre. Et en fait, il avait déjà prévu ses rendez-vous à Cannes. En fait, il voit un éditeur et dans l'éditeur qu'il voit, il m'emmène avec lui en disant voilà. Donc, on lui explique à l'éditeur que finalement, c'est nous qui allons gérer ces trucs, mais que l'auteur voulait absolument présenter son jeu à cet éditeur-là. Le problème, c'est que j'étais là. Et dans le problème, c'est que l'éditeur ont l'habitude avec moi d'être cash. Donc des fois, t'as envie de leur dire. D'ailleurs, je leur dis des fois, ça fait un moment, ok, les gars, on est cash. Mais des fois, faut y aller mollo quand même. J'ai des limites quand même.
Qui est quand même bossé 50 heures, chanteur.
Donc voilà. Et là, l'éditeur a un peu oublié que l'auteur était là. Et il a fait comme il fait avec moi. Je peux dire que l'auteur n'a pas vécu ça super bien. Il aurait été tout seul. L'éditeur serait comporté complètement autrement. C'est pour ça que je ne dis pas le nom de l'auteur ni de l'éditeur, parce que l'éditeur n'est pas coutumier du fait, il n'a pas cette réputation-là, mais parce que comme on est agent, ça lui permet justement de pas mettre la passer la crème et oui, voilà, on a une relation avec lui de confiance et il sait bon, on est là pour lui faire gagner du temps.
C'est ça. Donc, il gagne du temps quoi.
Voilà, là il a gagné du temps là et ça a pas été simple. Et là l'auteur il fait ok bon on va passer par agent parce qu'au bout d'un moment après voilà après la plupart des autres des éditeurs sont cool, enfin faut c'est plus des moments agréables quoi. Après voilà on est agent donc c'est beaucoup plus simple pour eux de nous ont entre guillemets nous envoyer chier, on va pas mettre du perso quoi.
Ouais.
Ok, bah moi j'ai fait le tour. Donc je vous rappelle que désormais ProxyJeux est une association. Et c'est plus que jamais la Proxy Team. Nous sommes un peu partout en France, Paris, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Metz, Cholet, Toulon, et même au Japon. Alors si vous voulez nous rencontrer, nous serons toujours heureux de le faire sur des salons ou divers événements qui se tiennent partout en France, ou ailleurs, comme à Essen. Et je vais laisser Cyrus conclure cet épisode.
Et que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant des commentaires sur le site podcast.proxy-jeux.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. On va tâcher de faire un beau billet. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Notez-nous sur iTunes, laissez-nous des commentaires. Et puis parlez de nous autour de vous. Le prochain épisode sera animé par Olivier. Il recevra un auteur lyonnais pour changer.
Voilà.
Et en attendant, jouez bien.
Impossible votre truc à la fin.